Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Qui peut dire qu'il est béni? Et pourquoi? Voilà le thème de la série d'émissions que nous commençons aujourd'hui. Nous l'aborderons en nous appuyant essentiellement sur les psaumes.
Notre invité Jean-Marc va nous aider dans nos discussions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il va nous expliquer pourquoi ce thème est si important. Cédons-lui tout de suite la parole.
Merci Yann et bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu des chrétiens aisés s'exclamer « Je suis béni parce que le Seigneur me comble de richesses et de biens ». Mais alors, en suivant un tel raisonnement, les pauvres ne devraient-ils pas en conclure que du fait de leur pauvreté, ils ne sont pas bénis par Dieu? Avez-vous aussi déjà entendu une personne en bonne santé affirmer « Je suis béni parce que je ne tombe jamais malade ». Alors, dans ce cas-là, que devrait en conclure celui qui souffre d'un handicap ou d'une maladie chronique grave? Sera-t-il forcé d'en déduire que Dieu ne le bénit pas? Si nous concevons la bénédiction de Dieu essentiellement en termes de biens matériels, tous ceux qui n'atteindraient pas leurs aspirations pourraient se demander s'ils ne sont pas privés des bénédictions de Dieu. Définir la bénédiction selon les critères tels qu'une bonne éducation, une bonne réputation, la prospérité, la réussite dans ses entreprises, une bonne santé, pourrait laisser les gens pauvres, démunis et désavantagés, perplexes et abattus. Si pour nous la bénédiction, c'est posséder matériellement, alors nous donnons une image fausse de Dieu. Une image qui ne reflète pas du tout le langage biblique lorsqu'il dépeint ce que la bénédiction est réellement, et en faisant cela, nous pouvons priver beaucoup de gens d'un précieux confort. Travailler pour améliorer sa vie, vouloir poursuivre ses études, travailler dur pour la réussite de ses entreprises, sont des aspirations louables. Toutefois, la bénédiction de Dieu est un ordre tout à fait différent. Car selon la Bible, on peut être démuni ou malade, désavantagé ou maltraité, et pourtant jouir de la bénédiction de Dieu. Mais en quoi consiste cette bénédiction de Dieu? Nous allons le découvrir lors de cette série à travers les psaumes.
Merci Jean-Marc pour cette introduction. Nous comprenons l'enjeu autour de cette question. En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Par où allons-nous commencer aujourd'hui?
Par la lecture du psaume 32, versets 1 et 2.
Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi.
Merci. Le pardon de Dieu apparaît dans ces versets, mais pas le mot bénédiction.
Et pourtant, on pourrait traduire ces versets ainsi « Celui dont le péché est pardonné est béni. L'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute est béni. » En hébreu, langue utilisée pour écrire ce psaume, le mot traduit par « heureux » a plutôt le sens de bénédiction. Ainsi, les mots « heureux » et « béni » ont une signification assez proche. Nous pouvons comprendre leur sens ainsi. Un homme peut se considérer heureux ou béni lorsqu'il jouit de la faveur de Dieu. Plus précisément, dans le verset lu, un homme ou une femme peuvent se considérer bénis ou heureux lorsqu'ils reçoivent le pardon de Dieu. Le pardon est une grâce, une bénédiction que Dieu accorde, et quiconque en jouit est heureux.
Merci pour cette précision. Jean-Marc, rappelez-nous le contexte de ce psaume. Qui l'a écrit et pourquoi?
Ce psaume a été écrit par le roi David, qui régna en Israël environ 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. David le rédigea après avoir traversé une période difficile dans sa vie, durant laquelle il commit des péchés gravissimes. En effet, il commit un adultère avec une femme, Bathsheba. Et lorsque celle-ci tomba enceinte, David chercha à dissimuler sa faute en organisant le meurtre de son mari. Même si David n'a pas lui-même tué cet homme en personne, il était l'instigateur du complot qui a abouti à sa mort. David a cédé à ses passions. Il a abusé de son pouvoir. Il a commis des crimes graves.
Mais le psaume que nous avons lu parle du pardon de Dieu. Dieu a-t-il réellement pardonné des péchés aussi graves?
Oui. Toutefois, avant d'arriver à cette assurance du pardon de Dieu, David a vécu une transformation spirituelle qui doit nous servir d'exemple.
Expliquez-nous cela.
Nous allons suivre le cheminement de David à travers certains psaumes, notamment le psaume 51, où on le découvre réalisant son péché et toute la gravité de ses fautes qui, tout à coup, lui deviennent insoutenables. Auparavant, il semblait se moquer de ses actes, il semblait les ignorer, mais la visite du prophète Nathan lui a ouvert les yeux. David a sombré dans le regret. Profondément accablé et affligé par la culpabilité, il s'est alors tourné vers Dieu. David supplia Dieu. Il implora sa miséricorde. Il rechercha son pardon. David savait qu'il se trouvait dans une situation périlleuse. Après tout, selon les lois en vigueur, il méritait la peine de mort. Dieu n'est-il pas le Dieu juste et saint?
Mais Dieu s'est montré miséricordieux envers David. Il lui a pardonné ses fautes. Pourquoi alors le Dieu qui est juste semble ne pas exercer sa justice?
Voilà une question de première importance. En fait, Dieu n'a pas oublié d'exercer sa justice ou ne s'est pas montré injuste, mais il a exigé qu'un autre paie à la place du coupable. Par exemple, à l'époque de David, des sacrifices d'animaux étaient offerts pour le péché. Un agneau prenait la place du coupable et subissait la peine de mort. En fait, ces sacrifices d'animaux présents dans l'Ancien Testament servent de panneaux de signalisation qui orientent nos regards vers le vrai sacrifice par excellence, celui de Jésus. Jésus est mort sur la croix à notre place. Il y a subi les exigences de la justice en prenant sur lui la peine que méritent nos péchés. Oui, Dieu peut nous pardonner uniquement parce que Jésus a pris sur lui le juste châtiment de nos fautes.
Dans le psaume qu'il a écrit, David déclare qu'il est heureux ou encore béni parce qu'il a reçu le pardon de Dieu. Le pardon est donc une bénédiction. Expliquez-nous cela davantage.
Il est intéressant de noter qu'à l'époque où ces événements se sont déroulés, David était devenu un homme riche et puissant. Il venait de faire construire un palais magnifique. Il avait remporté des victoires militaires éclatantes. Il avait bien réussi sa vie et le peuple entier l'acclamait. Et pourtant, il n'a jamais décrit sa gloire terrestre comme une bénédiction dans aucun de ses nombreux psaumes. Non. Toutefois, lorsqu'il considère le pardon qu'il a reçu de Dieu, il s'exclame « Que je suis béni, que je suis heureux !» Autrement dit, pour David, l'assurance du pardon est bien plus importante, a plus de valeur que toutes les richesses possibles ou que la réussite. Le pardon de Dieu est la véritable bénédiction qui surpasse tout autre.
Pouvez-vous nous expliquer, Jean-Marc, pourquoi nous devons concevoir le pardon de Dieu comme une si grande bénédiction?
Selon moi, il y a trois raisons à cela. La première est en rapport avec la loi, la seconde est d'ordre relationnel et la dernière psychologique.
Expliquez-nous cela, s'il vous plaît.
Bien sûr. Légalement, je peux affirmer que nous ne sommes plus condamnables devant la loi de Dieu, car Dieu nous a pardonné nos péchés. Le jour viendra où nous passerons devant le tribunal divin, Dieu alors nous donnera son verdict et nous dira « Tu es non coupable, tu es innocent ». Si Dieu nous pardonne, le jugement à venir n'est absolument plus à craindre. Si Dieu nous pardonne, notre destin éternel ne sera plus l'enfer. Oui, nous ressusciterons, mais pour vivre éternellement avec Dieu.
Quelle bénédiction incroyable! Vous avez aussi mentionné une bénédiction avec une portée relationnelle. Que voulez-vous dire par là?
Nos fautes nous séparent de Dieu. Nos péchés ont pour conséquence d'engendrer une rupture de relation avec lui. Ils se dressent entre Dieu et nous, tel un obstacle empêchant toute amitié, toute harmonie, toute communion, toute intimité avec lui. Toutefois, le pardon de Dieu enlève cet obstacle. Il ouvre le chemin à la réconciliation Il répare toute relation brisée. Alors, parce que nous sommes pardonnés, nous pouvons jouir d'une nouvelle relation avec Dieu. Le Nouveau Testament parle de cette relation en termes d'adoption. Dieu est notre Père et nous devenons ses enfants. Mes amis, n'y a-t-il pas de plus grande bénédiction que de connaître Dieu le Père ? N'existe-t-il pas de plus grand privilège que de marcher main dans la main avec celui qui fait preuve envers nous de miséricorde et de grâce, celui qui nous prouve son amour, sa compassion, sa fidélité et tant d'autres qualités ? Oui, le pardon est une bénédiction incroyable. Il nous permet de jouir d'un privilège qui surpasse tous les autres, car Dieu lui-même se donne à nous, jour après jour, tel un Père parfait. Que pouvons-nous vivre de mieux ?
Il n'est pas étonnant que dans le psaume 103, David s'exclame
« Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. »
Jean-Marc, voulez-vous dire quelques mots sur la dimension psychologique du pardon ?
Oui. Recevoir le pardon de Dieu soulage du fardeau de la culpabilité. Un tel fardeau peut attrister. Il peut rendre malheureux.
Je pense à une illustration à ce sujet. Certaines femmes africaines marchent de longues distances, avec de lourdes charges posées sur leur tête. Elles transportent ainsi du bois pour la cuisine, de l'eau, des légumes ou d'autres récoltes à vendre. Souvent, je m'interroge et je me demande comment elles font pour porter de tels fardeaux. Elles doivent être soulagées lorsqu'elles peuvent les déposer.
Oui, voilà une belle illustration. Lorsque nous implorons le pardon de Dieu et qu'il nous l'accorde, le fardeau de notre culpabilité disparaît de nos cœurs. Nous pouvons dès lors vivre en paix, la conscience tranquille. Toute crainte, toute appréhension concernant la mort et le jugement divin se dissipe, car il n'y a plus de raison de les craindre. Dans le psaume 32, David décrit sa condition avant d'avoir confessé ses fautes. Il était malheureux, épuisé, sa vigueur l'abandonnait. Toutefois, une fois son péché confessé, il s'exclame « Heureux celui dont le péché est pardonné ». Oui, vraiment, le pardon est une bénédiction qui surpasse tout autre bienfait.
Merci de nous avoir aidé à comprendre toute l'importance du pardon de Dieu. Il est indispensable, incontournable. Nous ne pouvons pas dire « Je suis béni de Dieu » sans rechercher ce pardon, ni le recevoir. Et lorsque nous l'avons reçu, nous pouvons affirmer « Je suis bien plus béni que tous les hommes riches vivant dans le monde entier. » Jean-Marc, nous vous remercions pour votre participation et avons hâte de vous retrouver la prochaine fois. Au revoir.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Sur ce, nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse et vous accorde son pardon.